toutes les fois, mais je trouve chouette les efforts que vous faites pour être toujours très bien présenté à l'église. Toujours propre sur soi, toujours prêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que, vu que Dieu est un Dieu de grâce, les gens vont dire: ah, mais alors, ça n'a pas d'importance comment je m'habille et tout ça. Alors, c'est vrai que ce qui compte, c'est votre être intérieur, ça c'est sûr, hein. Mais par contre, Dieu se soucie de l'habillement qu'on porte. Vous voyez, Jésus portait un manteau, on en parlait avec une membre de l'église aujourd'hui, un manteau qui était extrêmement cher. Jésus était une personne qui avait toujours beaucoup de classe, vous voyez. C'est un homme qui inspirait la crainte, pas la crainte, la peur, mais la crainte, le respect. Vous voyez, à un moment, il a dit: qui m'a touché? Parce que quelqu'un lui avait touché le bord du vêtement. Et la Bible dit que les gens ont eu une forme de crainte parce qu'il inspirait énormément d'autorité. Quand Jésus a vu qu'il y avait des changes et des marchands dans le temple, il a fait un fouet, il l'a fabriqué. Hein. La Bible est claire. Il a pris des lanières, il les a mis autour d'un bâton et il a chassé les gens comme ça du temple. Vous voyez? Donc Jésus, bien qu'il était un homme très doux et très bon et plein d'amour, il portait en même temps cette autorité qu'on attribuerait traditionnellement à la masculinité. Jésus était un homme masculin et imposant qui prenait soin de lui. Et je dois dire que je suis très fier de vous, en particulier vous, messieurs, les jeunes messieurs, mesdames aussi, bien sûr, mais les jeunes messieurs, à quel point vous prenez votre virilité et votre masculinité en main, c'est quelque chose de beau à voir. Donc continuez dans cette lancée. Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, alléluia. Dites: je suis prospère à tous égards. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse étudier un passage des Écritures qui va ouvrir notre compréhension de Dieu sur certains points. Prenez directement 1 Corinthiens, chapitre 9, et verset 16. Prenez sur vos Bibles Darby. Parce qu'on doit comprendre la raison pour laquelle nous sommes sur terre. La raison pour laquelle nous sommes sur terre n'est pas d'accumuler des richesses, n'est pas d'avoir un impact mondain sur le monde, n'est pas de profiter de la vie. Ça, c'est quelque chose que j'entends des fois, les gens qui disent: je vais profiter de ma vie ou je vais profiter de ma jeunesse et tout. C'est une notion que je peux comprendre, mais elle ne prend pas en compte l'éternité. Pourquoi profiter de sa vie et de perdre son éternité? Même au niveau mathématique, c'est complètement fou. Je crois que c'était mon arrière-grand-père qui décrivait l'éternité de cette manière. Il expliquait: imaginez une grande montagne, la montagne la plus grande possible. Imaginez que tous les 1000 ans, un oiseau passe et touche le haut de la montagne et grappille quelques graviers, vous voyez. Imaginez quand cette montagne aurait été entièrement grappillée, qu'il n'y ait plus de montagne parce qu'à force que l'oiseau passe tous les 1000 ans, la montagne n'existe plus. Il a dit: même alors, ce serait uniquement le début de la perception, de la compréhension du commencement de l'éternité, vous voyez. Donc l'éternité n'est pas faite pour être comprise par notre cerveau humain, hein. Elle est faite pour être comprise par notre être intérieur. Amen. Donc, 1 Corinthiens 9, 16, où il va parler de la nécessité. C'est beau, vous allez voir. Car si je prêche l'évangile, il ne m'en est pas un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Car malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Donc là, il dit une nécessité. Il dit: si je prêche l'évangile, je n'en tire aucun sujet de gloire, parce qu'une nécessité m'est imposée. Maintenant, on veut juste comprendre dans quel contexte dit ça l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il expose son ministère à la critique. Il y a des gens qui commencent par critiquer son ministère pour plusieurs raisons, notamment à cause du grand impact qu'il avait et aussi de sa manière de faire le ministère. Et en fait, il rentre dans une explication où il explique à l'église de Corinthe que bien qu'il ait eu le droit légal devant Dieu de prendre un salaire pour le ministère qu'il rendait, c'est-à-dire qu'il rendait ministère à des gens, il était en droit de prendre un salaire. Il a dit: je renonce à le faire pour pouvoir atteindre un maximum de personnes. Et après, justement, il parle qu'il a une fierté de ne pas avoir eu à s'imposer auprès des gens. Mais après, derrière, il dit: par contre, ma fierté, c'est le fait de ne pas m'être imposé aux gens. C'est-à-dire d'arriver dans une ville, prêcher, puis dire: bon, ben, je suis à la charge de tout le monde, vous me payez à manger. Et après, il précise, il avait le droit de faire ça. Dieu lui avait permis de faire ça. Vu qu'il prêchait à plein temps, Dieu lui avait permis de vivre aux frais des gens à qui il prêchait. Vous voyez un petit peu l'idée? Mais il a dit: pour éviter que ce soit une occasion de chute pour les gens, je vais juste faire mon propre travail et prêcher et je vais être à la charge de personne. Et il dit: en cela, je mets ma fierté. D'accord? Mais juste derrière, il dit: par contre, le fait de prêcher l'évangile n'est pas une source de fierté. Donc il sous-entend que c'est normal de prêcher l'évangile. Et après, il dit: une nécessité m'est imposée. Et le terme nécessité qui est utilisé, il est très intéressant. Parce qu'il sous-entend quelque chose d'inévitable en grec. D'ailleurs, des fois, c'est. Donc, si vous regardez en grec, c'est intéressant parce qu'on lit, vous voyez, la Bible, et elle a une version grecque originale, n'est-ce pas? Mais on oublie parfois que le grec ancien est utilisé pour une multitude d'écrits, pas juste la Bible, vous voyez? Donc, quand on regarde dans les autres utilisations de ce même mot hors de la Bible, en grec ancien, ça donne toujours cette notion de fatalité, qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à ça. Aucun. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais dire aux gens. Vous savez, ultimement, les gens vont se tenir devant Dieu. Il n'y a aucune possibilité, aucun moyen d'éviter ça. Tous les êtres humains vont se retrouver devant Dieu. Tous les êtres humains vont se retrouver confrontés à leur passé et à ce qu'ils ont fait sur Terre. Tous les êtres humains vont être confrontés à Dieu un jour ou un autre. Ultimement, ça va être l'éternité. Il y a une fois un pasteur que j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a dit, le fait d'être athée est une condition temporaire. Parce que le jour où ils vont être devant Dieu, soudainement, ils vont croire en lui. Et c'est vrai. Dites, je crois déjà en Dieu. Et mon salut est sécurisé. Éternellement. Et il y a une nécessité qui nous est imposée. Pourquoi? Il dit après ensuite, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Ok. Une nécessité est imposée. Il y a des choses qui sont inévitables dans la vie. Le fait de grandir est inévitable. L'être humain grandit. On ne peut pas rester bébé. C'est pas possible. L'être humain grandit, n'est-ce pas? C'est inévitable. Il y a une multitude de choses qui sont évitables, mais le fait de devoir un jour être devant Dieu est inévitable. Et les gens le savent très bien, vous savez. Les gens, quand ils veulent argumenter avec vous sur l'existence de Dieu ou pas, au final, quand vous touchez la corde de leur cœur, comme on dit, hein, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu. Les gens savent qu'il y a un Dieu. Ils font juste un mind game. C'est un jeu de pensée. D'accord? Les gens savent très bien qu'il y a un Dieu à l'intérieur d'eux. Ils savent très, très bien. D'ailleurs, c'est un des premiers trucs que je dis quand les gens me disent « Ah, moi, je ne crois pas en Dieu ». Je dis « C'est faux, tu crois en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. » Alors, vous savez, les gens sont un peu malhonnêtes intellectuellement. Donc, je ne vais pas leur dire « La Bible dit que tout le monde croit en Dieu. » Parce qu'ils vont faire « Ah bah non, alors ça prouve que la Bible a… » Tandis que si je l'aborde juste comme ça, je fais « Tout le monde croit en Dieu. Mais tout le monde sait qu'il y a un Dieu. De quoi tu parles ?» Et chaque fois, à part quelques fois, mais presque chaque fois, ils sont toujours là « Ouais, c'est vrai, il y a sûrement quelque chose. » Les gens savent qu'il y a un Dieu, d'accord? Et vous avez trouvé Dieu, vous avez fini votre chemin, vous avez trouvé Dieu, alléluia, vous l'avez trouvé, vous êtes arrivé à la maison pour toujours, amen. Dites, je suis arrivé. Dites, je ne suis plus en chemin. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous vivez comme cela? Ok, regardez bien, donc il dit, une nécessité m'est imposée. Donc il y a un sérieux dans le fait d'être dans le Christ, parce que nous devons prêcher l'évangile. Une nécessité qui est imposée. Qui est inévitable, on pourrait traduire, une nécessité inévitable. Dites, c'est inévitable. J'aimerais que vous voyiez cette réalité parce que vous, vous êtes sauvés. Gloire à Dieu. Ça ne vous arrivera pas. Mais si quelqu'un dans votre condition de sauvé, n'est-ce pas, il lui arrivait quelque chose qui se retrouve dans la gloire, il serait dans la gloire éternelle pour toujours. Vous voyez? Votre salut a été scellé. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Ceux qui sont venus à la foi après avoir entendu la bonne nouvelle de leur salut, et le Saint-Esprit les a scellés pour un jour de rédemption. Donc vous êtes scellés indécelables. Personne ne peut casser votre évangile. Personne ne peut casser votre salut. Qu'est-ce qu'on se rappelle? Il y a les quatre types de justice. C'est quoi la numéro une? Justice par la foi en. Deuxième. Loi de Moïse, c'est juste. Troisième. En Christ. Et quatrième. Par nature, de naissance. C'est votre nature même. Donc vous êtes nés justes. Donc. Vous avez beau peut-être agir d'une manière injuste, si vous êtes né juste, vous êtes juste. C'est un fait, j'avais vu dans un. Ouh, c'est vieux ça. C'était dans un. Quelque chose où il y a un mec. Alors, c'était bien sûr pour rire. Il voulait se prendre pour un gars des ghettos. Vous voyez un peu l'idée? Et c'est dans le truc, il s'habille un peu exprès large et tout. Puis il va vers des. Lui, il est blanc. Hein. Et il va vers des Afro-Américains. Puis il commence à parler un peu comme un ghetto. Et le gars, il regarde genre, oh, mais pour qui tu te prends? T'es blanc? Vous voyez? Il a beau se comporter comme quelque chose qui n'est pas, derrière, il reste qui il est. Donc vous, si tout d'un coup vous sortez de cette compréhension de Dieu et vous commencez à agir en contradiction avec ce que Dieu veut de vous, ça ne change pas qui vous êtes. Après, rentrez vite, hein, parce que vous n'êtes pas confortable hors de Dieu. Amen. Mais il dit, une nécessité m'est imposée. Vous, vous êtes sauvés, gloire à Dieu. Maintenant, pensez aux gens dans votre entourage que vous aimez qui ne sont pas sauvés. Il y a un truc d'inévitable, il y a une urgence absolue pour leur vie. Parce que eux, regardez, eux ne sont pas sauvés. Et il est inévitable de se retrouver devant Dieu. Regardez, c'est vraiment inévitable. Il n'y a personne qui passera à côté de ça. Personne. Personne, personne, personne. Alors je vais juste dire la question au micro, comme ça les gens qui entendront après. Une question a été posée, n'est-ce pas triste pour les gens qui se comportent bien et qui ne sont pas sauvés? Alors oui, c'est triste, bien sûr que c'est triste. Mais par contre, regardez bien, même si une personne se comporte bien, s'il n'a pas confessé Jésus-Christ, sa nature n'est pas la nature de justice. Elle peut se comporter bien. Et la plupart des gens dans notre environnement occidental se comportent d'une manière décente. Je ne dirais pas bien, mais décente. Ils ne vont pas tuer des gens, ils ne vont pas faire ça. Mais ça ne justifie pas l'entrée au ciel. On ne rentre pas au ciel parce qu'on a fait des choses de bien et le bien contrebalance le mal. On rentre au ciel parce qu'on est de la nature divine et on retourne à la maison. Vous voyez, et c'est pour ça qu'il y a une nécessité qui est donnée. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il insiste sur cette nécessité. Parce que s'il y avait un moyen de sortir, imaginons, de l'enfer pour ensuite aller au ciel, sure, pourquoi pas? C'est cette notion qu'on trouve chez le catholicisme, qui d'ailleurs n'est pas dans la Bible, qu'on appelle le purgatoire. C'est-à-dire que les gens vont se faire purger de leurs péchés et après 10 000 ans en enfer, ils peuvent sortir. Ce n'est pas dans la Bible, ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit une nécessité m'est imposée. Pourquoi? Parce que c'est inévitable. Regardez, la Bible est claire. Ceux qui sont nés, l'être humain naît, donc naître, n'est-ce pas, le verbe naître, il naît dans une condition contre Dieu. La nature humaine est inimitié contre Dieu. Elle est contre Dieu, la nature humaine. D'accord? Cette nature humaine, de nature, il mérite l'enfer à cause de ça. D'accord? Tous les humains méritent l'enfer. Tous, sans exception. Regardez, juste le fait de refuser Christ, alors que la conviction du Saint-Esprit est forte dans la personne. Juste ça, c'est avec ce que Christ a fait pour nous, juste ça, ça mériterait l'enfer. Vous voyez ce que je veux dire? De refuser l'œuvre de Christ, le fait qu'il soit venu pour mourir pour nous, non, on ne peut pas faire ça. Et donc, une personne qui naît de nouveau, c'est le principe de naître de nouveau, c'est qu'on naît, du verbe naître, dans la justice. Et c'est cette justice-là qui nous qualifie pour aller au ciel. Et c'est ça l'erreur de tellement de gens qui veulent obtenir de Dieu. C'est ce qu'on appelle la présence perdue. C'est que beaucoup de gens savent qu'il y a en eux un trou en forme de Dieu qui peut être rempli que par Dieu. Et ils cherchent Dieu de tout leur cœur. Ils le cherchent avec des religions, ils le cherchent avec des rituels, ils le cherchent avec plusieurs choses qui ne comblent pas. Et des fois, ils vont le chercher avec d'autres choses, d'autres dépendances. Parce qu'on a une dépendance à Dieu. C'est sain. Et ils vont le chercher avec d'autres dépendances, alcool, drogue et des dépendances plus simples, dépendance affective, dépendance au sport, dépendance à, je ne sais pas, à faire la fête, au shopping. C'est ça, ça peut être n'importe quoi. Et les gens vont chercher ça. Le problème, c'est que ce cœur, regarde, oh, gloire à Dieu, ce trou en forme de Dieu qui peut être rempli que par Dieu, s'il est de la même image de Dieu, ça veut dire qu'il est éternel et illimité. Ça veut dire qu'aucun système limité ne pourra le remplir. Et c'est pour ça que les gens continuent. C'est insatiable. Et là, une fois que la grâce de Dieu est venue, que l'illimité de Dieu est venue, nous sommes comblés à vie, pour l'éternité. Vous voyez? Vous avez été comblés en Christ, c'est fait. Oh, allez, juste ça, ça me donne des fois envie de danser, de crier, parce que Christ vit en nous et j'ai été comblé pour toujours. Regardez, il n'y a rien qui puisse m'arriver, rien. Rien ne peut m'ébranler, rien du tout, rien ne peut m'empêcher d'avancer. Et ça, c'est la réalité dans laquelle on a été projeté en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Christ vit en nous maintenant, alléluia. Mais reparlons de cette nécessité qui nous est imposée, si vous voulez bien. Cette nécessité nous est imposée. Pourquoi? Parce qu'il y a, regardez ce que la Bible dit dans Jean 14, verset 6. Regardez Jean 14, verset 6. Vous allez voir, quelque chose de merveilleux. Et c'est pour ça qu'en Christ, toute satisfaction est. C'est pour ça qu'en Christ, on a trouvé, c'est fait. Je me pose la question. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes venu à Christ depuis plus d'un an ou pas? Pas encore et toi pas encore. Ok. Je me pose la question, c'est juste pour savoir. Vous avez trouvé Jean 14, 6? Oui? Que dit le Seigneur? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ensuite il précise, parce qu'on pourrait dire c'est un chemin. Non, il dit je suis le chemin. Après il dit nul, nul, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Nul ne vient au Père que par Christ. C'est pour ça qu'une nécessité est imposée. Oui, il y a des gens qui sont bons. Génial. Être bon, ça hérite pas le ciel. Vous savez, Dieu est tellement puissant qu'on ne peut pas accéder à Dieu avec des bonnes actions. Aussi bonnes sont vos actions, vous ne pouvez même pas accéder à un président sur cette terre. Dieu, vous pensez que vous pourrez pour Dieu? Dieu est parfait. Si vous êtes parfait, vous pouvez rentrer. Personne n'est parfait. Amen. Mais dites une nécessité m'est imposée. Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Regardez, Romains chapitre 1, verset 5. Oh, alléluia, dites alléluia. Je ne sais pas si c'est un chapitre 1, verset 5, oui. Je ne sais pas si c'est un alléluia fatigué ou solennel. Ok, alors ça va. Regardez, vous avez trouvé ? Romains 1, 5. Alléluia. Il dit par lequel, donc Jésus-Christ, nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations pour son nom. Oh, dites, j'ai reçu la grâce et l'apostolat. Vous savez que là où vous êtes maintenant, vous êtes peut-être le seul accès à Christ pour une personne. Peut-être. Non, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre à ma place. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que quelqu'un peut prendre votre couronne, ça oui. Parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a appelé à faire, donc quelqu'un a dû faire une partie à votre place. Mais même cette personne n'a pas pu faire exactement comme vous. Parce que vous savez à quel point Dieu vous aime, à quel point vous comptez pour Dieu. Alors c'est beau, hein, et ça implique à quel point il compte sur vous. Vous savez qu'il n'y a personne comme vous. Souvent, vous savez, on est comme ça, vous êtes assis, vous m'écoutez prêcher, vous pensez alors que je prêche et tout, mais des fois j'aimerais que vous vous rendiez compte à quel point le Saint-Esprit pense à vous individuellement. Vous êtes constamment l'objet de ses pensées. Dieu pense constamment à vous. Constamment. Dieu pense à vous sans arrêt. Et bien sûr, il est Dieu, donc il arrive à penser à tous les êtres humains en même temps. Mais il pense à vous. À nous parler, à nous guider, à réfléchir aussi. Oui, amen. Dieu vit à l'intérieur de vous et il pense à vous continuellement. Il sait les problèmes par lesquels vous passez. Il sait les situations et les questions que vous posez. Il sait toutes ces choses. Il pense à vous individuellement. C'est sérieux. Vous êtes prêts pour le 28 septembre ? Le Saint-Esprit est à l'œuvre déjà dans la vie des gens qui vont venir, vous allez voir. Si vous saviez ce qu'on va parler, je peux vous dire. Je vais utiliser des paroles pour peindre une image de qui est Christ. Vous allez voir, les gens vont être absolument abasourdi parce que la réalité de Christ va devenir forte sur elle par la puissance de Dieu et ils vont se rendre compte que Christ est Seigneur. Ça va être très puissant, vous allez voir. Amen. Donc priez pour ça. Gloire à Dieu. Donc il dit, une nécessité m'est imposée. Dieu pense à vous. Dieu vous aime, vous. Regardez ce qu'il dit ensuite. Une grâce nous a été donnée pour gagner des âmes. J'aimerais qu'on continue avec cette lancée là parce que regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens. Alléluia, dites alléluia. Éphésiens chapitre 3 et verset 8. Dites, je suis plus que vainqueur. Dites, cette nécessité m'est imposée. Vous avez trouvé ? Non, Éphésiens 3, 8. Alléluia. Éphésiens 3, 8. À moi, donc c'est l'apôtre Paul qui dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ. Donc Christ a des richesses insondables. Mais notez que le fait d'annoncer ces richesses est une grâce. Ok. C'est pour ça que la Bible dit, il nous a donné la grâce et l'apostolat pour amener l'obéissance de la foi parmi les païens. Alléluia, dites j'ai la grâce et l'apostolat. Vous savez que c'est cette même grâce qui est en vous pour vos finances, qui fait tout d'un coup que vous faites un business. Alléluia, vous faites un business qui marche mieux que tout le monde. Soudainement, si vous saviez, vous dites, mais Joachim, j'ai juste un travail normal. Je suis en stage, je suis en apprentissage. Écoutez, moi j'étais en apprentissage, vous pouvez demander à ma maman, même alors que j'avais à peine commencé à petit peu comprendre la prospérité, tout d'un coup, je gagnais des concours nationaux chez Swisscom de vente. On m'offrait des trucs d'hôtel, on m'offrait des téléphones. Ils voulaient même m'offrir une télé, puis j'ai pris un téléphone à la place. Alléluia, vous voyez, la prospérité est active en vous. Ils m'avaient offert, on était avec ma maman, un séjour dans un magnifique hôtel. Magnifique l'hôtel. Pourquoi ? Parce que moi, en tant qu'apprenti, avec 3 jours par semaine au travail, parce que les 2 autres jours, j'étais à l'école, vous voyez. Pour ceux qui sont apprentis ou stagiaires, vous savez comment c'est. Une partie en entreprise, une partie à l'école. 3 jours, j'étais numéro 2 suisse de vente pour les entreprises. C'est vrai, dans la hotline où je travaillais. Il m'avait offert un téléphone. Une autre fois, il m'avait offert des bons pour Kyoni et j'ai pu m'acheter un billet d'avion avec. Alors que j'étais apprenti! Vous voyez, donc la prospérité de Dieu peut être à l'œuvre, quelle que soit votre situation, vous voyez? Quelle que soit votre situation, cette prospérité est à l'œuvre. Mais il dit, j'ai la grâce de prêcher les richesses insondables du Christ. Insondables. Ça veut dire que vous êtes à un niveau de richesse maintenant, il y a un niveau plus profond. Vous êtes à un niveau de santé maintenant, il y a un niveau plus profond. Vous êtes à un niveau de gloire maintenant, il y a un niveau plus profond et accessoirement plus haut. Dites, je suis un arbre de justice, planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Levez les mains vers Dieu, dites, tout ce que je fais prospère, à tous égards, parce que je suis cet arbre planté près des cours d'eau. Gloire à Dieu, c'est la vérité. Tout ce que vous faites prospère. Maintenant, le fait de prospérer doit être lié. Vous savez, c'est une grâce, la prospérité. Et cette grâce, elle est liée. Qu'est-ce qui est toujours grandissant, là ? Grâce. Alléluia. Donc, cette grâce est toujours grandissante. Et cette grâce est liée au fait d'amener l'évangile. Vous voyez un peu ? Ok. Maintenant, vous dites, c'est bien joli pour Paul. Mais qu'en est-il de moi ? Philippiens. Alléluia. Philippiens 1, 7. Oui, c'est pour ça que vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment béni, vous voyez. Vous êtes vraiment plein de grâce. Vous êtes vraiment prospère. Vous êtes vraiment une réussite absolue, constante, illimitée. Pourquoi ? Parce que Christ vit en vous. Vous êtes instoppable. Vous ne pouvez que réussir. Vous êtes le succès de Christ. Vous dites tout ce que j'entreprends réussit. Alléluia. Dites-le, tout ce que j'entreprends réussit. Levez les mains vers Dieu. Dites tout ce que je. Levez les mains vers Dieu. Dites tout ce que j'entreprends réussit. Dites la grâce m'a été donnée pour amener l'obéissance de Dieu. L'obéissance de la foi à tout mon entourage, à tout mon monde, à tout mon environnement. Dites, mes poches sont pleines d'argent. Mon corps est plein de santé. Et j'amène des âmes à Christ. Alléluia, 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 alléluia. Vous avez trouvé Philippiens 1 ? Philippiens 1, vous y êtes ? Verset 7, qu'est-ce qu'il dit ? Comme il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que vous m'avez dans votre cœur et que dans mes liens et dans la défense de la confirmation de l'Évangile, vous avez tous été participants de la grâce avec moi. Donc il dit, la même grâce qui était opérante, opérative, puissante, fonctionnante chez Paul, vous, dites-moi, j'ai la même grâce. Donc ce même Paul qui était tellement prospère qu'il n'avait pas besoin... Parce que vous savez, on lit que Paul, il nous explique, je ne prends pas de salaire et tout ça. Mais ça voulait dire qu'il était prospère. Parce que s'il pouvait vivre correctement, et il dit, je me plais dans l'abondance et dans la disette, ça veut dire qu'il a vécu dans l'abondance. Vous voyez un peu l'idée ? Donc ça veut dire qu'il était dans l'abondance sans travailler. En travaillant. Il était dans l'abondance sans dépendre des gens de l'église. Ça veut dire qu'il travaillait, ça veut dire qu'il était prospère. Paul était un homme prospère, c'est logique, hein. Dites, je suis prospère comme Paul, parce que j'ai part à la même grâce que lui. Qui êtes-vous ? Des fois, quand je pense à vous, quand je priais par exemple pour vous tout à l'heure, j'ai pris environ 35-45 minutes pour prier juste pour vous, l'église. Parce qu'après, bien sûr, je prie pour d'autres choses. Quand je pense à vous, quand je prie pour vous, je pense à vous et le Saint-Esprit me parle. Vous savez, des fois, je ressens ce que vous ressentez. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là. Je ressens les déceptions. Vous savez que des fois, je ressens vos déceptions. Je les ressens à l'intérieur de moi et je prie pour vous. Je les sens, je sais ce qui est sur votre cœur. Sans même que vous me l'ayez dit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit passe au travers de moi pour vous apporter les richesses insondables de Christ. Parce que Christ est votre réponse. Christ est votre salut. Christ est votre résultat. Christ est votre arrivée et votre départ. Il est le début et la fin. Il est toute chose. Prenez 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Prenons même le verset 3 et le verset 4. Parce que vous voyez, c'est... Ok, je vois vos besoins. Et seulement Christ est votre résultat. Seulement Christ peut vous donner quelque chose. Seulement Christ peut vous faire marcher dans le succès. Seulement Christ peut être la suffisance, l'autosuffisance pour votre vie. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et 4. C'est un verset qu'on a déjà vu, mais j'aimerais pointer quelque chose de plus. Il dit, « Et si notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent. » En lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, et il précise quelque chose, qui est l'image de Dieu. Donc Christ est l'image de Dieu. Quand je pense à vous, quand je pense à vous, quand je pense à vous, quand je pense à toi, quand je pense à toi, je pense à la prospérité que Dieu a pour vous. Je pense aux richesses insondables du Christ que Dieu a mis à votre disposition. Je pense à donner à votre vie une signification. Qu'est-ce que c'est la signification de la vie? Vous savez, dans Ecclésiaste, il fait tout un exposé sur l'inutilité des choses, la futilité des choses. Il dit, oh génial, j'ai un palais, j'ai le plus grand empire du monde. Hein, mon fils qui va le reprendre, il pourrait le foirer. Il a raison. Après, il dit, j'ai toutes les femmes que je veux. Hein, à quoi ça sert? Il dit, j'ai expérimenté la folie, la sagesse ultime. De toute façon, je vais mourir un jour. Mais après, il dit, regardez, c'est tellement beau. Il finit par dire, mais la crainte du Seigneur est la réponse de tout. Donc il dit, ce monde, vous savez, une signification à votre vie, vous pensez que ça veut dire quoi? Ça c'est le slogan de l'ambassade du Christ. Ambassade du Christ, donner une signification à votre vie. Est-ce que c'est, ah, tu vas avoir une signification de vie parce que tu auras un super business? Non. Oh, parce que tu vas être super musclé? Non. Oh, parce que tu vas vraiment avoir un boulot qui te plaît? C'est pas ça la signification de la vie. Ces choses-là sont importantes, mais la vraie signification de la vie, c'est d'avoir Christ à l'intérieur de soi et de vivre dans les richesses insondables de Christ et de commencer à les partager. C'est là que votre vie aura de la valeur parce que autant que Dieu vous a béni, Dieu nous a béni, amen, dites Dieu m'a béni. Dieu vous a béni de toute bénédiction spirituelle, Ephésiens 1, 3. Et donc, ça veut dire que vous êtes maintenant béni de toute bénédiction spirituelle. Mais croyez-moi, comparé à l'expérience que vous allez faire après le retour du Christ, toute prospérité que vous pourriez avoir sur terre n'égalera jamais, jamais, jamais cette prospérité au ciel. Jamais. Vraiment, hein. C'est beaucoup trop ce qu'on va avoir au ciel. Après, bien sûr, on va revenir sur terre et vivre sur une terre glorifiée. Et là, ce sera encore beaucoup trop de nouveau. Ça va être géant. Ça va être insoutenable tellement on va être dans la prospérité. Donc voyez, le but sur terre n'est pas de vivre dans la prospérité. Le but, c'est de prêcher l'évangile et d'être prospère pour cela. Amen. Dites, je suis prospère à tous égards. Dites, j'avance tout le temps. Voyez, je pense à vous beaucoup. Parce que Dieu m'a confié la gestion de votre croissance spirituelle. Et je ne prends pas ça à la légère. Pas du tout. Il y a des pasteurs, je sais, ils ne prient pas pour leur peuple. Ils ne prient pas pour leurs gens. Ils ne prient pas pour leur personne, ou peu. Moi, je pense à vous individuellement. Alors bien sûr, qu'on commencera à continuer à grandir, à avoir beaucoup plus de monde, peut-être je ne pourrais pas penser à chaque individu, mais je pense à vous, je prie pour vous. Je sais ce que vous pouvez traverser. Dieu vous aime et Dieu veut votre succès. Et une des manières, Romains chapitre 10 et verset 17, une des manières que Dieu va utiliser pour vous construire, la manière principale, c'est par la parole de Dieu. Dites, la parole de Dieu me construit. Alléluia. Vous êtes un succès constant et ambulant. Tout ce que vous entreprenez réussit. Et là où vous êtes maintenant, vous êtes en attente, ou plutôt Dieu est en attente de ce que vous commenciez à prêcher l'évangile. C'est votre responsabilité d'amener des gens à Christ. Pourquoi? Parce que, quel génial, la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ok, étons dans ça. À quoi sert-il à un homme de gagner son âme et de ne pas emmener son monde avec lui au ciel? Et par son monde, j'entends pas, c'est bien, j'entends les gens qui l'entourent. Vous savez, vous dites, Joachim, comme la question intéressante a été posée, qu'en est-il des gens bons? Vous les aimez, ces gens, n'est-ce pas? Vous pensez à votre famille, vous pensez à vos parents, vous pensez à vos frères et sœurs, vous pensez à aux enfants, peut-être? Non, ben non, en fait, tous les enfants sont convertis. Vous pensez à vos amis, vous pensez à vos collègues. Ok, vous les aimez et vous ne voulez pas qu'ils brûlent, n'est-ce pas? À combien plus forte raison Dieu les aime si vous les aimez? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Vous les aimez d'un amour profond, n'est-ce pas? Très profond, vous feriez tout pour eux. Et Christ a fait plus parce qu'il est mort pour eux, et il est ressuscité pour eux, et il est monté au ciel pour eux, et il a envoyé le Saint-Esprit sur eux. Donc c'est votre objectif de gagner ces gens pour Christ. Et c'est pour ça qu'on met en place avec l'Église ce genre d'événement comme le 28. Parce que vous pouvez amener les gens, vous pouvez continuer à prier pour eux. Parce que Dieu a fait de vous un succès. Dieu collabore avec vous. Dites, Dieu collabore avec moi. Vous savez, vous dites, pourquoi est-ce que ce n'est pas un ange qui vient prêcher l'Évangile? Vous savez pourquoi? Je peux vous expliquer, bibliquement, il y a une raison. Hein, parce que les gens disent, oh, si les gens voient un ange, ils vont venir à Christ. Bon, premièrement, non. Hein, la Bible, il y a des gens qui ont vu des anges. Il y a des gens, je me rappelle, qui ont vu des miracles. Des miracles indéniables. indéniable. Par exemple, une fois, avec le pasteur Benny Hinn, une personne avait un cancer. Et j'ai plein de gens qui m'ont témoigné ça, il y a même des vidéos. Le cancer est tombé sur la scène. La personne avait la grosseur, le Saint-Esprit était tellement agissant, ou plutôt, Benny a laissé tellement le Saint-Esprit couler au travers de lui, que la personne, devant tout le monde, la tumeur a été coupée surnaturellement, elle est tombée sur le sol. C'est quoi ce niveau de miracle, vous voyez? Et pourtant, dans l'équipe de Benny, il y avait des non-croyants parce qu'ils s'occupaient de sa sécurité, eux-mêmes ne sont pas venus à Christ. Vous imaginez un peu? Les miracles, ce n'est pas ce qui prouve Christ, c'est la parole de Dieu qui prouve Christ, parce que c'est spirituel. Je sais que les miracles, c'est bien, mais ce qui amène quelqu'un à Christ, c'est la parole. Amen. Et vous, vous êtes cette parole. La Bible dit que vous êtes les épîtres de Christ. Vous savez que quelqu'un vous lit constamment. Quand je vous vois, je suis si fier de vous. Vraiment. Je suis fier de votre avancée. Je suis fier de vous voir progresser. Je suis fier de vous voir être dans ce que Dieu a pour vous. Et si ce n'est pas le cas, je vais le corriger avec amour. Amen. Dites, je suis prospère à tous égards. Dites, Dieu m'utilise. Alléluia. Levez les mains, commencez à bénir Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Commencez à bénir Dieu pour la vie qu'il vous a donnée, pour la puissance qu'il a mis à l'intérieur de vous, pour la gloire de Dieu qui est votre définition. Levez-vous.